Voix Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La première ministre britannique Theresa May a annoncé aujourd'hui sa démission usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle n'a pas su mettre en œuvre. Madame May a précisé qu'elle démissionnerait de ses fonctions de chef du Parti conservateur et donc de chef du gouvernement le 7 juin, exprimant un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit. Mardi, Theresa May avait présenté un plan de la dernière chance pour tenter de reprendre le contrôle de ce processus, en vain puisque le test a fait l'objet d'un déluge de critiques tant de l'opposition travailliste que des eurosceptiques de son propre parti, entraînant ainsi la démission mercredi soir de la ministre chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom. La justice américaine a annoncé jeudi avoir retenu 17 chefs d'inculpation supplémentaires contre le fondateur du site WikiLeaks, Julian Assange, accusant le lanceur d'alerte australien d'avoir conspiré pour obtenir des informations classifiées et dévoiler l'identité de sources confidentielles. Dans un communiqué, le département de la justice a déclaré qu'Assange a mis en danger la vie de nombreuses sources de services américains, parmi lesquelles des journalistes, des chefs religieux, des opposants politiques et des défenseurs des droits de l'homme, en dévoilant notamment leur identité. Le ministre américain de la Défense par intérim a démenti les chiffres sur l'envoi de troupes au Moyen-Orient circulant dans la presse américaine. Patrick Shanahan a laissé entendre que le commandement américain dans la région avait simplement envoyé une requête au Pentagone pour des effectifs supplémentaires. La précision intervient dans un contexte de tension avec l'Iran. Idrissa Seydoudia.
Le ministre de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, a démenti les informations des agences Reuters et AP selon lesquelles le Pentagone pourrait envoyer entre 5 000 et 10 000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour se défendre contre une éventuelle menace iranienne. Ce à quoi nous réfléchissons, c'est « y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour améliorer la sécurité de nos forces au Moyen-Orient ?» Cela pourrait comprendre l'envoi de troupes supplémentaires, a affirmé M. Shanahan à la presse avant un briefing au président Donald Trump.
Nos infos sur voafrique.com.
Et nous sommes en direct du studio 1740D de la Voix de l'Amérique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national à compter d'hier en hommage aux victimes d'un massacre dans l'Ouest et à une religieuse espagnole assassinée dans le pays. Irénée Armanoumbo.
Le jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mai sont déclarés jours de deuil national sur toute l'étendue de la République centrafricaine en hommage aux victimes de Paoua et à la sœur Inès Nieves Sancho de Nola, a annoncé le président dans un décret. Le drapeau national sera en berne durant ces 3 jours de deuil qui ne sont pas fériés. Plus de 50 civils ont été tués ces derniers jours dans l'Ouest dans une série d'attaques attribuées au groupe armé 3R, retour, réclamation, réconciliation autour de la ville de Paoua dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Tchad selon un nouveau bilan de la MINUSCA. Il s'agit de la tuerie la plus importante depuis la signature le 6 février dernier d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. Une enquête a été ouverte par les autorités locales avec le soutien de l'ONU. Des casques bleus patrouillent dans la région avec les forces armées centrafricaines. Le colonel sous-chef des opérations de la MINUSCA a évoqué un acte terroriste. Il n'y a pas de base des 3R dans les environs de la tuerie. Cela signifie qu'ils sont venus de loin et ils ont agi presque simultanément sur différents sites. Donc on peut parler d'attaques coordonnées, a-t-il précisé.
En RDC, des autorités politico-administratives ont été impliquées dans le massacre de Yumbi dans la province du Mai Ndombé, située à 300 km de Kinshasa. Des violences entre deux communautés y avaient fait au moins 535 morts selon l'ONU en décembre dernier et 461 selon le gouvernement congolais qui a publié hier un rapport à ce sujet. Le point tout de suite avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce rapport interministériel ministérielle évoque l'implication des notables Tende et Nounou, les deux communautés qui se sont affrontées entre le 16 et le 18 décembre dernier, ainsi que celle des autorités politico-administratives de la province du Maïndombé dans les violences qui ont marqué le territoire de Yumbi. Certaines autorités politico-administratives sont déjà entendues. Les enquêtes sont en cours. Je ne peux pas vous citer de nom pour le moment, a dit Marie-Ange Mouchobekwa, la ministre des Droits humains. La commission recommande le désarmement de toutes les deux communautés et demande que les auteurs de ces violences soient poursuivis par la justice. La ministre a révélé également que Gentil Ngobila, actuel gouverneur de Kinshasa, à l'époque à la tête du Maïndombé, a été entendu comme renseignant par la commission. En mars dernier, pour rappel, un rapport des enquêteurs de l'ONU évoquait au moins 535 morts et 111 blessés dans 4 villages du territoire de Yumbi. Ce rapport soulignait alors de possibles crimes contre l'humanité. La commission gouvernementale, elle, évoque un bilan de 461 morts, dont 98 femmes et 123 blessés. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les dirigeants du mouvement de contestation au Soudan ont indiqué le jeudi leur intention de consulter les manifestants pour trouver un moyen de sortie de l'impasse dans les négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils. Les discussions avec l'armée ont été suspendues lundi en raison de désaccords sur la composition du futur conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition et sur la personne, un civil ou un militaire qui doit en prendre la tête. Au Burkina Faso, hier, des agents des eaux et forêts de la région de Bobo-Dioulasso se sont dit opposés à la construction dans la forêt de Koua à Bobo-Dioulasso d'un hôpital financé par la Chine. La destruction d'une partie de cette forêt classée depuis 1936 fait polémique dans le pays depuis plusieurs semaines. Pour le colonel Léonard Zouré, ancien directeur général de l'école des eaux et forêts du Burkina, la destruction de cette forêt ne se justifie pas.
Dans un pays aussi sahélien que le nôtre, une forêt qui a 83 ans d'âge juridique, moi je pense en toute honnêteté et en toute humilité qu'il est mieux de la protéger que de la livrer à la vindicte des populations. Voilà pourquoi j'attire l'attention de l'autorité avec des preuves à l'appui pour dire que le choix n'était pas un choix judicieux, mais il était un choix hasardeux.
Le premier ministre, devant les députés, a expliqué que les Chinois ont proposé de planter des arbres.
Si le Chinois me dit ça, je dis, il fait de la comédie. Il veut planter, arracher des arbres. Mais imaginez une forêt classée. Le calcul est simple. J'ai une forêt de 350 hectares. J'ai un autre site de 30 hectares que je peux reboiser. On me dit, je vais aller puiser 16 hectares dans une forêt classée et je vais planter 30 hectares dans un autre terrain qui n'est ni classé ni une réserve. Les gens confondent le statut et la destination. Mais le statut actuel de la forêt de Koua, c'est une forêt publique, mais qui est classée. Maintenant, les 30 hectares que la Chine veut aller planter ou que le maire veut aller planter, mais je ne sais pas quel statut ils vont donner à cette superficie. Mais au lieu de détruire pour aller faire, pourquoi ne pas aller construire l'hôpital sur les 30 hectares? C'est aussi simple que de l'eau à boire.
Et l'autre argument du gouvernement, c'est que la partie concernée, les 16 hectares, ce n'est pas une partie assez boisée. Et donc, ça ne devrait pas poser de problème.
Dans toute forêt classée, vous avez des plages. Mais c'est ça l'écologie en réalité. En dehors des systèmes climax, même quand vous allez au Gabon, vous allez trouver des trouées dans la forêt, des clairières, des bas-fonds. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire non, parce qu'il y a dégradation, il faut détruire. Non, moi je ne suis pas d'accord. La solution de la dégradation n'est pas le déclassement d'une forêt, c'est mettre les moyens pour qu'on conserve mieux, qu'on protège et qu'on enrichisse la forêt.
Quelle est l'importance de la forêt de Koua pour cette région du Burkina?
Étant un pays sahélien, quand vous regardez la configuration des forêts de la ville de Bobo-Dioulasso, la forêt de Koua se trouve à l'est, c'est-à-dire du côté des grands vents. Et elle est adossée à une autre forêt qu'on appelle la forêt de Kouinima. Ces deux forêts sont sur le bassin, c'est-à-dire la cuvette des nappes phréatiques qui alimentent la guinguette où l'Onéa puise l'eau pour la boisson de Bobo-Dioulasso. Ensuite, vous avez du côté ouest, vous avez la grande forêt de Dingereso, suivie de la forêt du Kou, qui bloque un peu l'effet pervers des interventions, ainsi de suite.
Léona Zouré, ancien directeur général de l'école des eaux et forêts du Burkina, joint à Garango, dans l'est du pays, par Bagassi Koura. Nous terminons ce journal avec le sport. Le Gabon a un nouvel entraîneur. Il s'agit du Français Patrice Neveu, nommé pour 4 ans. Jean-Roger Billon à ce micro. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi, bon week-end à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.